Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Rémi Barré.
Estelle Midi. Ça se passe de midi à 15h. Ça se passe où ? Sur RMC et sur RMC Story. RMC Story, c'est le canal 23 de la TNT. Jusque-là, tout est clair.
Bien oui. De rappeler les règles.
Voilà, mais c'est bien de temps en temps. Alfred Orange est là. Alfred Orange, c'est qui ? Le journaliste sur RMC. Voilà.
Absolument.
Bon, Juliette Briens, vous l'avez entendu rire à l'instant, elle est journaliste à l'incorrect.
Tout à fait.
Pierre-Édouard Magnan, président de l'association Chômeurs et Précaires, c'est ça, je me trompe pas. Et Thierry Moreau, journaliste média. Voilà, le décor, il est planté. Dans un instant, le sommaire, donc, délinquance, terrorisme. Doit-on autoriser la reconnaissance faciale ? Vous nous appelez au 32-16. À 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC avec notre zapping. À 14h, SOS Fantôme 5. Les trois mousquetaires, peut-être le volet 3 dans quelques temps, peut-être. Le Comte de Monte Cristo, ça c'est déjà vendu, ça sera le 28 juin prochain, la sortie en France. Le cinéma est-il en panne d'idées ? Vous nous appelez là aussi au 32-16. Et puis à 14h40, les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas manquer aujourd'hui. Alfred, on parlera de quoi notamment ?
On parlera de Doctolib qui met un râteau à la taxe lapin. Vous savez, ces rendez-vous médicaux non honorés. Et puis on restera aussi dans les animaux puisqu'on parlera de deux cochons qui ont été embauchés par une commune pour faire du tri et du biodéchet.
Et puis on joue, Alfred, aujourd'hui ?
Absolument, on joue, vous l'entendez.
C'est du foot,
non ? La musique frisson, la musique de la Ligue des Champions parce que... Cette semaine, RMC vous propose de gagner l'expérience RMC Barcelone-PSG le 16 avril prochain. On vous offre le voyage, la nuit d'hôtel, la rencontre avec les équipes de RMC Sport avant le match. Et puis bien sûr, votre place pour ce match. C'est le moment de vous inscrire en envoyant PSG au 7-32-16. PSG au 7-32-16. Votre place pour Barcelone-Paris se gagne uniquement sur RMC.
Et Pierre-Edouard, tu viens de dire c'est mon rêve, mais tu ne peux pas jouer.
Je sais bien, j'ai parlé.
Barcelone, surtout pour aller à Barcelone.
RMC Estelle Midi.
C'est la vidéo du jour. Vidéosurveillance algorithmique qui sera autorisée durant les prochains JO à Paris. Des caméras intelligentes pour notamment donner l'alerte en cas d'anomalie du comportement, de mouvement de foule, d'une personne qui court, qui se met subitement à courir ou alors qui tombe. Mais Alfred, certains aimeraient aller plus loin.
Oui, parce que ces caméras intelligentes qui seront donc utilisées pour les Jeux n'analyseront ni les visages, ni les plaques d'immatriculation, assurent notamment les sociétés qui les commercialisent. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, la loi française l'interdit, mais certaines villes font les yeux doux à cette reconnaissance faciale. À Nice, par exemple, la ville aimerait tester le dispositif, mais se heurte à la loi. La police nationale est d'ailleurs sous le coup d'une enquête à Nice de la part du ministère de l'Intérieur. Les policiers niçois sont accusés d'utiliser un logiciel de reconnaissance faciale qui s'appelle Briefcam pour surveiller les rues et les transports. Aucun texte de loi ne le permet en France, mais c'est ce que redoutent certains élus et associés. C'est qu'à terme, ces méthodes finissent par être autorisées et que la reconnaissance faciale fasse irruption dans notre quotidien.
Délinquance, terrorisme, doit-on autoriser la reconnaissance faciale ? Vous nous appelez au 32-16. Juliette Briens.
Et moi, je suis contre. Je suis contre parce qu'on laisse s'installer depuis 50 ans, 40 ans dans ce pays, le chaos.
Mais tu es contre quoi, toi ?
Je suis contre l'installation d'une reconnaissance faciale.
Ah bon ?
Totalement, oui. On laisse s'installer dans notre pays depuis 40 ans le chaos total. Et après, on nous dit, maintenant c'est l'enfer, sécurisons l'enfer, on va mettre des portiques partout, on va mettre de la reconnaissance faciale et tant d'autres mesures liberticides et on va transformer notre pays en un état policier. Moi, je suis désolée, je ne veux pas vivre dans un état policier. Quand on voit aujourd'hui que le jeune qui avait agressé Angèle à Cannes, par exemple, pas mis de 89 ans, qu'il avait mis un coup... vient de se faire choper aujourd'hui pour deal de drogue. Quand on voit que le terroriste de Bir Hakeim était sorti de prison alors qu'il était accusé...
Ça n'a pas de rapport avec l'intelligence.
Je vais vous expliquer. Alors qu'il était accusé de conspiration pour attentat terroriste et qu'il est sorti sous contrôle judiciaire, il était en communication avec des terroristes, notamment dans l'affaire Samuel Paty. C'est ça qu'on a besoin de régler. C'est ça qu'on a besoin de régler. On a besoin d'enfermer les gens.
En fait.
Pardon ?
Tu veux dire que la reconnaissance faciale
n'apportera rien ? Elle peut apporter quelque chose. Ce qu'elle peut apporter, c'est une surveillance. Voilà, on peut être comme en Russie aussi. On peut vivre sous surveillance. Mais bien sûr, qu'est-ce que vous croyez ? Mais ces choses-là, ça peut aller très loin. Vous pensez que pendant le Covid, par exemple, quand on n'avait pas le droit de sortir de chez nous sans autorisation de sortie, et que la reconnaissance faciale est en place. Vous pensez qu'on peut pas se servir de la reconnaissance faciale pour justement voir qui sort de chez soi et qui est allé sortir ses poubelles un peu trop longuement aujourd'hui? Ben non, mais moi je veux pas vivre dans ce genre d'état. Je suis désolée, je ne veux pas. Donc réglons nos problèmes, arrêtons le laxisme, construisons des places de prison et puis arrêtons de sécuriser l'enfer constamment.
Thierry Moreau.
Bon, évidemment, je suis pas sur la même ligne que Juliette, parce que d'abord, je pense qu'on n'est pas dans un état policier. On est très très loin d'être dans un état policier. Alors, faut pas se leurrer. La DGSI, la DGSE utilisent déjà des logiciels de reconnaissance faciale dans des cas extrêmement précis.
Voilà, dans des cas
de reconnaissance,
extrêmes,
ouais. Absolument. Mmh. Il y a eu un documentaire sur France Télévisions cette semaine sur la DGSE qui explique, qui parle de ça notamment. On est dans une démocratie où il y a un truc qui s'appelle la CNIL, qui a été créé et qui justement veille à l'encadrement, je dirais démocratique, ou en tout cas sauvegarde des libertés de ces procédures. Il faut savoir l'utiliser quand c'est nécessaire. Enfin, les spécialistes, quand on lit un peu la littérature sur les sociologues qui parlent de ça, ils disent qu'il faut l'utiliser quand c'est nécessaire et de façon proportionnelle. Je pense qu'on est un peu dans cette veine-là. Il y a déjà des expérimentations. Je rappelle que l'Australie, qui est quand même pas un état policier, l'a utilisé. Je pense que l'Allemagne a fait des expérimentations aussi. C'est pas un état policier, l'Allemagne.
Non, puis on peut imaginer en plus que dans une foule, s'il y avait une reconnaissance faciale, l'alerte ne va se déclencher que si la personne est fichée, recherchée.
Oui, il y a plein de moyens, en tout cas, de garde-fous.
Et ça commence toujours comme ça au début, évidemment.
Il faut que ce soit le pouvoir judiciaire qui encadre ça et non pas le pouvoir administratif. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit encadré par un juge, par un pouvoir judiciaire qui est indépendant de l'exécutif. Si on arrive à avoir ces garde-fous, je pense que la reconnaissance faciale, de toute façon, on va y arriver de facto. Donc autant essayer de l'encadrer, c'est comme l'histoire des écrans, c'est comme
essayer de l'encadrer, toi. Même toi, tu ne crois pas. Même toi, tu ne crois pas. Parce que tu sais très bien que ça commence comme ça. On met des règles, on dit non, que dans un cas spécial, que pour le terrorisme, que pour ça.
Excusez-moi.
Et puis à la fin, on a le crédit social comme en Chine.
En Chine, où tu as un capital social.
On deviendra peut-être, justement. Ne créons pas les conditions, justement, d'un glissement. Parce qu'avec le chaos qui s'installe en ce moment, je te dis, le glissement s'opérera. Si on ne met pas des stops maintenant.
Pierre-Edouard Magnan.
Alors, c'est pas facile, parce qu'entre Hitler et le chaos, j'ai du mal à choisir. Alors, moi, je fais partie des gens qui considèrent que je préfère renoncer à une partie de ma sécurité au nom de ma liberté, et j'irais même des libertés individuelles et collectives, parce qu'on oublie souvent les libertés collectives quand on discute. Et effectivement, moi, je suis inquiet par ces démarches de repérage et de fichage, parce que derrière ces démarches, il y a aussi un vrai problème, c'est la conservation des données.
Il n'y a pas de fichage.
Alors, non mais, j'emploie le mot fichage, là, on est en Chine. Si on est en Europe, avec les règles qui sont normalement qui s'appliquent, notamment le règlement général de protection des données, mais il y a la question de la conservation, de la durée de conservation et du traitement de ces données. Je vais être un peu technique, mais c'est ça le sujet. Je disais effectivement, c'est pas le chaos Hitler, mais je vais dire en plaisantant, la Hongrie, c'est pas un régime nazi, c'est pourtant pas un régime dans lequel j'aurais envie de vivre. Il y a plusieurs échelons, il y a plusieurs niveaux. Et si on commence effectivement, parce que un moment on va repérer les gens, mais ça veut dire que quand il va y avoir, on parlait de grève, des manifestations, on va vouloir anticiper. Alors on va dire ah oui, mais c'est pour les black blocs autour qu'on anticipe. Puis on va commencer à filmer les gens. Et puis du coup on va avoir des éléments. Et n'oubliez jamais qu'une force de police, quelle qu'elle soit, quand elle a des informations, elle les utilise. Personne ne renonce à utiliser des informations qu'il possède, quand bien même il ne devrait pas l'avoir. Il avait dit ah non, mais vous inquiétez pas, je l'utiliserai pas pour ça. Donc je trouve que le risque est grand. Et moi j'allais dire, je trouve que je préfère renoncer à une sécurité que de renoncer à une liberté. Alors, oui, c'est dur. Oui, si j'étais moi-même une victime du terrorisme, ou si ma fille était victime du terrorisme, je ne sais pas si je tiendrais ce discours-là, parce qu'évidemment, je serais dans l'affect et je serais directement concerné, et ce serait très dur. Mais de manière sociale et globale, je pense qu'il faut effectivement toujours préserver les libertés. Et j'insiste, individuelle et collective, plutôt effectivement que la sécurité. D'autant qu'entre parenthèses, ces systèmes-là facilitent les enquêtes après coup, mais ils n'empêcheront jamais rien en amont. C'est-à-dire que ce ne sont pas des systèmes qui empêchent quoi que ce soit. Donc on renonce sûrement à une liberté sans garantie derrière d'une sécurité supplémentaire.
Il faut savoir renoncer à un peu de liberté individuelle pour l'intérêt du collectif.
Mais voilà,
l'intérêt
mais tu vois,
de la sécurité, de la sûreté.
Le Covid, comme tu vois, le Covid, on nous expliquait que c'était une question de vie ou de mort, qu'on comptait les morts tous les soirs, etc. Bon, donc on aurait très bien pu, si c'est une question de vie ou de mort, pourquoi ne pas utiliser l'intelligence artificielle et la reconnaissance faciale pour ficher tout le monde dans la rue, voir qui est parti courir une heure de trop. Non mais réponds là-dessus, c'est quand même un exemple.
On n'en a pas eu besoin à l'époque.
Je peux me permettre, c'est quand même un exemple typique. On a sorti les drones, je vois pas pourquoi on n'aurait pas sorti la reconnaissance faciale.
On n'a pas eu besoin.
Mais réponds au moins là-dessus.
Il n'y a pas eu besoin, comme le dit Rémi. Les drones, on les a très très peu utilisés d'ailleurs. Donc il n'y a pas eu besoin. Les gens ont à 99,9%.
Mais parce que c'était la première fois. Imagine, il y a re-Covid et les gens sont plus réfractaires. Parce qu'à mon avis, ce sera le cas. ce sera le cas.
Ben, ça n'arrivera pas parce qu'on est dans une démocratie.
Ah, ça n'arrivera pas. Ah, ouais, oui, d'accord. On est dans une démocratie.
Il y a des garde-fous.
Il y a eu beaucoup de choses antidémocratiques pendant le Covid sur lesquelles le gouvernement sont revenus d'ailleurs.
Délinquance, terrorisme, doit-on autoriser la reconnaissance faciale? On vous pose la question, vous nous appelez au 32-16 et vous réagissez sur les réseaux sociaux de Estelle Midi, notamment sur Direct Studio. Alfred.
Oui, vous êtes très nombreux à nous écrire. Didier, le problème, c'est que comme beaucoup de choses, on a commencé par une très bonne idée et ça va finir par une généralité. Et puis Guy qui nous écrit, le risque est immense, je ne veux pas vivre en Russie ou en Chine.
On va au 32-16, justement, retrouver Patricia, c'est ça ?
Oui, c'est Patricia, bonjour à tous.
Bonjour Patricia, bonjour. Merci bonjour. D'être avec nous. Vous nous appelez depuis le département de l'Aude ?
Tout à fait.
On est dans quel coin ?
Narbonne.
Très bien. Vous faites quoi dans la vie, Patricia ?
Artisan taxi.
D'accord. Vous êtes pour ou contre la reconnaissance faciale ?
Pour, et même au-delà, je vais faire bondir quelques-uns sur votre plateau.
Allez-y.
Mais pour commencer, un événement exceptionnel, mesure exceptionnelle. Et puis, ceci dit, cette mesure, vous voyez, vu l'état de délabrement de la société française, pour pas dire du reste du monde, je vais vous dire, cette mesure-là, moi, je l'étendrai bien à tous les jours, dans la vie de tous les jours. Et ça ne me pose aucun problème, de savoir que je suis filmée, de savoir si je vais manger avec Pierre, Paul ou Jacques, ou de savoir à quelle heure je suis rentrée le soir et surtout avec qui je suis rentrée. Ça ne me pose aucun problème.
C'est
à partir
l'idée,
du moment...
j'ai rien à me reprocher. Donc
exactement.
Allez-y.
À partir du moment où je n'ai rien fait de malhonnête ou de grave, ça ne me pose aucun souci. Mais qu'on ne s'inquiète pas, vu que des mesures fermes, il y a trop de laxisme, ne sont pas prises depuis des décennies, on va y venir doucement et sûrement. Et ça ne me déplaira pas aucunement, sincèrement.
Oui, ça ne vous déplaît pas, évidemment. Moi non plus, je n'ai rien à me reprocher. Donc, ça ne nous déplaît pas aujourd'hui dans cette société démocratique dans laquelle on vit, dans ce modèle dans lequel on vit. Mais moi, je vous le dis, Patricia, il faut se protéger pour l'avenir. Et toutes ces mesures liberticides de quasi-surveillance, elles ne sont pas souhaitables pour l'avenir. Et le chaos, il ne fallait pas le laisser s'installer et il faut le régler par d'autres manières.
Qui l'a laissé s'installer le chaos ? Le chaos, je vais vous dire, c'est le laxisme de la gauche.
C'est ce que je dis.
C'est ce laxisme.
C'est bien ce que je dis.
Mais il est trop tard. Donc
moi, non, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Il y a des solutions. Je vous promets qu'il n'est pas trop tard.
Dites-moi lesquelles.
Il faut réformer la justice. Il faut construire des places de prison. Il faut enfermer. Il faut faire baisser notre taux de récidive. Il y a énormément de choses à faire, mais il faut énormément de volonté.
D'accord.
Ce sera toujours plus souhaitable.
Le jour où on construira, c'est pas 40 000 places de prison qu'il faut, parce que nous ne représentons même pas 10% de la population des prisonniers. Je crois qu'ils représentent 4% de la population. Donc c'est autant dire c'est nul. Le jour où on construit 100 000, 200 000, 300 000 places de prison, là je vous suivrai, mais on en est loin, parce qu'il y aura toujours la gauche qui va pousser des cris d'orfraie, et puis que au secours.
J'ai pas vu la droite.
Emmanuel Macron, on avait promis 15 000.
Il dit que la prison, c'est pas la solution. Je sais pas ce qu'il fout à cette fonction. C'est inacceptable à mes oreilles d'entendre ça.
Merci Patricia d'avoir été avec nous. C'était très clair.
Merci.
Patricia qui nous appelait au 32-16 depuis du côté de Narbonne. On va rejoindre Denis Jacob. Oui, on a procédé à une reconnaissance faciale. On s'est dit qui on va inviter. Et là, il est apparu le visage de Denis Jacob. Bonjour Denis Jacob.
Bonjour Rémi, bonjour à
bonjour. Tous. Bonjour. Secrétaire général du syndicat Alternative Police, CFDT. On vous connaît bien dans Estelle Midi. Denis Jacob. La reconnaissance, on sait qu'il va y avoir une mise en place sous forme expérimentale d'une reconnaissance, d'une vidéosurveillance algorithmique durant les JO. C'est-à-dire que s'il y a un mouvement de foule qui se produit, un départ de feu, quelqu'un qui brandit une arme, quelqu'un qui tombe soudainement à terre d'une manière brusque, quelqu'un qui se met à courir alors que il y a quelque chose qui n'a pas besoin de courir à ce moment-là, ou en tout cas c'est anormal, il va y avoir une alerte qui va se déclencher. Ça, c'est une première étape. Ça va être testé durant les JO. Est-ce que déjà, ça, c'est bien ?
Vous savez, je vais être beaucoup moins radical que d'habitude, Rémi, sur ce
Allez-y.
Sujet. Parce qu'entre ce que j'ai entendu sur le plateau et puis l'intervention de l'auditrice Patricia, entre les discours complotistes de fichage, de de la police va détenir des données
à être
utilisées pour autre chose et autres. Non, faut arrêter quoi. Enfin, on n'est pas, c'est pas la police Big Brother. Et d'ailleurs, je ne le souhaite pas. À l'inverse, pour nous, c'est un outil supplémentaire. C'est pas la solution, mais c'est une solution parmi d'autres pour garantir la sécurité de nos concitoyens. Et ça doit faire l'objet, dans son utilisation, d'un régime d'exception tel que l'Europe vient de le proposer, c'est-à-dire selon certains critères bien déterminés, et notamment celui de la lutte contre le terrorisme. Utiliser la reconnaissance faciale...
C'est ce que j'allais vous demander, est-ce qu'il faut aller plus loin ?
Ça dépend pourquoi. Là, en l'occurrence, on a déjà la vidéosurveillance. On est dans un attroupement, on voit une bousculade, un individu qui commence à s'échapper en courant. La reconnaissance faciale dans l'immédiat, elle n'est pas utile. Il faut utiliser la vidéosurveillance, suivre le parcours de l'individu pour pouvoir orienter les patrouilles de police et procéder à son interpellation.
Oui, mais imaginons Denis Jacob, j'imagine, parce que ça sert à ça aussi, la reconnaissance faciale. On est pendant les JO. À l'entrée d'une salle où doit se dérouler l'une des compétitions, et puis la reconnaissance faciale reconnaît quelqu'un qui est fiché pour terrorisme. Ça peut être utile, non ?
J'allais y venir, effectivement, ça c'est la deuxième partie. Quand on a des enquêtes qui sont déjà lancées sur des individus qui sont recherchés pour crime ou parce qu'ils font l'objet d'un suivi pour une suspicion de passage à l'acte terroriste, on parle de reconnaissance faciale ou de logiciel algorithmique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'homme va envoyer des informations précises dans le logiciel pour dire voilà, on a un signalement d'un individu qui est de telle sorte, habillé de telle manière, et c'est sur la base de ces données qui vont être entrées par l'être humain que la reconnaissance faciale va faire le tri des personnes qui correspondent aux données qu'on lui a données.
Donc c'est l'homme qui maîtrise la machine des conditions particulières.
Elle fait pas ce qu'elle veut. Vous savez, il y avait une série américaine qui était très intéressante et qui posait véritablement ce problème, c'est la série Person of Interest. Vous la connaissez. Et elle était très bien faite parce que ça démontrait justement le débat qu'il y a sur le plateau aujourd'hui de la dangerosité. Faut pas le nier. Et moi, je ne souhaite pas une société Big Brother, pas du tout. Mais ça montrait aussi l'atout que ça avait de prévenir des crimes. Et donc, le but, c'est bien de garantir la sécurité des personnes et des biens sans que ça soit détourné à un usage autre pour lequel il est destiné, à savoir assurer la sécurité de nos concitoyens sur des situations particulières, c'est-à-dire que ça doit pas être quelque chose de généralisé au quotidien pour tout et n'importe quoi, mais sur une alerte terroriste, sur des événements internationaux comme les JO qui va brasser beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, des millions de personnes, et de pouvoir garantir aux gens qui vont pouvoir participer à un événement festif en toute sécurité, et nous de pouvoir leur garantir avec un outil supplémentaire qui nous permettra de gagner du temps et de l'efficacité pour neutraliser potentiellement un individu qui va commettre un crime et autres.
Denis Jacob, une question en tant que secrétaire général du syndicat alternatif police CFDT. Sur le terrain, la remontée des équipes qui sont sur le terrain, est-ce que parfois certains policiers vous disent, rongent un peu leurs freins face aux entraves qui leur sont mis, aux bâtons qui leur sont mis dans les roues, parce qu'ils se disent parfois, mais on a des outils aujourd'hui, pourquoi on les utilise pas ? Ça nous aiderait quand même vachement. Est-ce qu'il y a cette remontée là ?
Non, là, pas vraiment, parce que si vous voulez, la reconnaissance faciale, elle a deux objectifs. La première, c'est des gens qui sont derrière des écrans et qui vont travailler en complément du travail du logiciel ou dans le cadre d'enquête. C'est en temps réel. En temps réel, le policier du terrain n'utilise pas la reconnaissance faciale. C'est un outil numérique. Et je voudrais rebondir à ce que j'ai entendu d'ailleurs tout à l'heure. On peut pas d'un côté dire, moi, je ne veux pas la reconnaissance faciale parce que c'est une atteinte à ma liberté. Peut être entendu, je le remets pas du tout en cause, mais d'un autre côté, de dire la police, elle doit absolument prouver qu'elle est exemplaire et imposer aux policiers d'avoir des caméras sur eux, chose que je revendique et que je défends, hein, puisque moi, pour moi, c'est avant tout un outil de sécurité juridique pour le policier dans sa mission au quotidien. Mais on peut pas d'un côté dire, les flics, ils doivent absolument justifier de tout, doivent pouvoir prouver de leur exemplarité. Donc il faut leur imposer une caméra et puis il faut qu'ils filment en temps réel tout ce qu'ils font. Puis d'un autre côté, de dire, mais les gens, faut pas les surveiller.
Non, mais excusez-moi, mais c'est pas pareil. Monsieur Jacob, c'est pas pareil. La police.
Pour les deux cas de figure.
Non, c'est pas pareil parce que la police, elle.
Exactement pareil.
Excusez-moi, je peux terminer ma phrase.
La CNIL, elle surveille de la même manière.
Non, mais.
Juliette Brias.
Excusez-moi.
Monsieur
Jacob.
Juliette Brias.
La police, elle a le monopole de la violence légitime. C'est tout à fait normal. Qu'on regarde de quelle manière elle s'en sert. Je suis désolée, ça n'a rien à voir avec le citoyen lambda qui sort dans la rue.
Il est censé respecter la loi.
Il y a une immense différence entre un fonctionnaire de police armé qui a le monopole de la violence légitime et un citoyen.
Je ne vous dis pas que le policier ne doit pas justifier de l'exemplarité de son comportement sur le terrain. Je vous dis qu'on ne peut pas d'un côté dire il faut justifier pour les uns parce qu'ils ont le monopole de la violence légitime. Et de l'autre, vous, par exemple, qui, au prétexte que vous êtes une citoyenne lambda, vous allez commettre un délit et que vous ne devriez pas être surveillée justement pour vous empêcher de commettre ce délit.
Non, mais pour m'empêcher de commettre un délit, on peut me mettre en prison. Excusez-moi, mais vous connaissez la justice, un procès équitable. Non, mais c'est pas comme ça en fait. Non, si j'ai commis un délit, j'ai le droit à un procès équitable, à une défense avec un avocat, et si je suis coupable, on prend des mesures de justice. On n'est pas dans un état de surveillance. Et vous voyez, vous incarnez tout le problème de ce genre de mesures.
En tout cas, merci à Denis Jacob, secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT, d'avoir été avec nous. On retourne au 32-16. On vous pose la question, délinquance, terrorisme, doit-on autoriser la reconnaissance faciale? On va du côté de La Rochelle, retrouver, si je le vois bien, c'est votre prénom, Nicolas, c'est ça?
Ça, tout à fait, bonjour.
Bonjour Nicolas, merci d'être avec nous. Vous faites quoi dans la vie?
Commercial.
Très bien, Nicolas, on est très fort chez les commerciaux. Ouais. Ouais. Nicolas, vous êtes en déplacement là peut-être?
Je suis à Niort,
ouais, c'est ça. Ouais, on est très écoutés en déplacement, en mobilité, comme on dit chez RMC. Nicolas, est-ce que la reconnaissance faciale vous inquiète ou est-ce qu'elle vous rassurerait?
Moi, ça m'inquiète plutôt dans le sens où aujourd'hui, on a des délinquants qui récidivent, qui sont dehors. Ben, si des gens commençaient par faire notre travail, c'est-à-dire ou la justice, mettre en prison et leur apporter une peine qui soit juste, mais qui soit exécutée, ce serait déjà le premier point. Deuxième chose, vous avez un excellent reportage qui s'appelle « Ma femme a du crédit ».
Ma femme a du crédit.
Ma femme a du crédit, ouais. C'est un journaliste français qui est marié à une chinoise et qui la filme pendant un ou deux ans, je ne sais plus. Et où on voit toutes les dérives de la reconnaissance faciale. Elle est reconnue partout, elle va dans les magasins, dans les...
En Chine
En Chine, ouais.
On parle d'une dictature, quand même.
Ouais, mais cette dérive-là, je n'en veux pas. Aujourd'hui, les Français ont besoin de sécurité, et ils sont prêts à lâcher sur leur liberté pour obtenir cette sécurité. Et la dérive, elle peut aller très vite.
Dans une dictature, oui. Dans une démocratie, c'est différent quand même, non?
La dictature, elle n'a pas attendu l'intelligence artificielle, la reconnaissance faciale pour suivre les gens, ficher les gens. Donc, conduit à une dictature. Non, la dictature, intrinsèquement, elle entrave les libertés. C'est pas l'intelligence artificielle, la reconnaissance faciale.
Tu as raison de dire qu'il y a des droits. Tu as raison de dire... Tu as raison, Thierry, de dire.
Et Thierry a parlé tout à l'heure du reportage de la DGSE qui est passé hier soir sur France 2, qui était excellent. Et la DGSE, la DGSI font déjà un travail qui est excellent. Laissons-les faire. On n'a pas besoin d'être tous filmés tout le temps et reconnus partout où on va.
Moi, je me dis juste une chose. J'ai une image qui me vient en tête en parlant de ce sujet. Je ne dis pas que je suis pour ou contre. En tout cas, ça me fait réfléchir. Le 13 novembre 2015, les attentats du Bataclan. On sait aujourd'hui que rappelez-moi le nom du principal terroriste qui a été tué ensuite à Saint-Denis,
Abdeslam.
On sait qu'il est revenu
chez après.
On parle pas du même. Le commanditaire, vous savez, qui venait qui venait de Syrie. On va retrouver son nom. Qui a été tué ensuite à Saint-Denis dans l'assaut qui avait été donné à Saint-Denis. Ce soir-là, il est revenu. Il était aux abords du Stade de France. Il avait déposé les terroristes. Ce soir-là, il est revenu après sur les lieux. devant le Bataclan. Et on a cette fameuse image d'une capture vidéo, d'une caméra du métro, où on voit son visage, ses fameuses baskets orange. Il faisait partie du commando des terrasses. C'est une image que les enquêteurs ont obtenue, ont réussi à avoir, et puis ensuite, ils l'ont reconnue sur cette photo, parce que c'est des experts de la DGSI ou de la DGSE, je ne sais pas, mais qui l'avaient identifiée. Mais si cette image, il y avait eu une reconnaissance faciale, si à ce moment-là, une caméra de reconnaissance faciale avait tilté, avait donné l'alerte sur la présence...
Abdelhamid Abaoud.
Bien sûr, Abdelhamid Abaoud. Si Abdelhamid, on aurait pu, à ce moment-là,
à condition d'avoir que les programmes le recherchent.
Il était fiché. Je peux te dire qu'Abdelhamid Abaoud, il était fiché.
Oui, avec l'IA, ça recherché. Fait bing tout de suite.
Oui, ça fait bing tout de suite.
Moi, ça me pose juste la question. Mais on refait pas l'histoire, mais on sait que...
Mais en fait, alors, Thierry,
un marteau, si tu l'utilises pas,
Thierry, si tu permets... Il s'est fait abattre quelques jours plus tard à Saint-Denis. On sait que, durant ce laps de temps, il était en train de préparer une nouvelle attaque, peut-être à la défense. Voilà.
Thierry, tu pointes la différence effectivement entre l'outil et l'usage. Et
effectivement, un marteau, c'est un outil dangereux.
Je suis d'accord avec toi.
Sur un crâne.
Je suis d'accord avec toi. Mais cela dit, ça pose la question de la confiance et dans la classe politique et dans nos institutions aujourd'hui. Oui. Je n'irai pas au bout de l'analyse de Juliette parce que je ne pense pas que, ou de notre auditrice, je ne pense pas qu'avec 200 000 places de prison, la France serait plus sûre. Et je pense que si on avait 200 000 prisonniers en France, c'est que notre société aurait d'autres problèmes à se poser. Mais cela dit, c'est un problème de confiance. Effectivement, un outil n'est jamais mauvais en lui-même. Mais aujourd'hui, il y a un vrai déficit de confiance dans l'usage qui va en être fait, et tout le monde se dit à tort ou à raison, alors toi tu vas parler de procès d'intention, certains vont parler de précaution, en disant, si on met ça en place, on donne les moyens d'aller beaucoup plus loin. Effectivement, Mme Lacan, c'est pas Xi Jinping. Nous ne sommes pas dans la Russie de Poutine. Évidemment, non, d'ailleurs, sinon on serait pas là en train de parler.
Absolument.
Néanmoins, la peur de l'usage qui peut en être fait qu'on ne regarde plus l'outil, et ça c'est un problème de confiance dans nos institutions et de confiance dans notre classe politique, c'est que a priori, on pense qu'ils vont l'utiliser à notre désavantage.
Merci à Nicolas d'avoir été avec nous, et Nicolas qui nous a appelé au 32-16 depuis La Rochelle. On vous a posé la question, délinquance terrorisme, doit-on autoriser la reconnaissance faciale, Alfred?
Vous répondez oui à 78%, non à 22%. Je finis avec un message de Christo. De toute façon, on est déjà tracé entre les téléphones et les cartes bleues.
Mais bien sûr.
Ça ne peut être que dissuasif.
Vous le saviez peut-être pas, mais on est filmé en ce moment même. Dans un instant, le zapping, mais c'est le meilleur du jour sur RMC. Dans un instant, donc dans Estelle Midi. Sur RMC et RMC Story, à tout de suite.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Rémi Barré.
Estelle Midi, tous les jours, midi 15h sur RMC, RMC Story, tout de suite, le meilleur du jour sur RMC.
RMC, Estelle Midi,
le zapping RMC.
On commence avec les GG. Les néo-ruraux sont-ils le cauchemar des campagnes? En raison d'une forte montée des conflits de voisinage dans les campagnes, le Parlement a dû adopter une loi pour protéger les activités des agriculteurs ainsi que leur patrimoine sensoriel. Des conflits que constate chaque jour Romain. Il est agriculteur en Charente et il témoignait ce matin sur RMC. Alors, on n'a pas l'extrait de Romain. Bon, en tout cas, le sujet.
On sait de quoi on parle.
Juliette, on sait de quoi on parle. Tiens, je vais d'abord m'adresser à un néo-rural. Enfin, il l'est plus vraiment. Mais tiens, Thierry, on va écouter Romain, l'agriculteur, et après je m'adresserai à toi.
Okay. Je suis serralier, je suis installé depuis 18 ans. Et on voit une dégradation quand même d'année en année des riverains qui constamment portent plainte, que ce soit au maire de ma commune ou en gendarmerie. J'ai mon associé, moi, qui a pris un coup de boule cet hiver pendant les périodes de semis. 3 jours d'ITT, voilà, à force,
porter
les mains courantes. À cause du bruit, de la poussière un dimanche après-midi.
Qui porte plainte? Ce sont des gens qui sont installés récemment à la campagne.
J'ai les deux. Il y en a qui sont installés récemment en campagne dû au Covid. Et puis aussi maintenant aussi des riverains qui sont ancrés depuis une trentaine d'années.
Qui a accepté les choses il y a 20 ans et qui les accepte plus aujourd'hui.
Voilà, c'est ça exactement. Ça fait boule de neige.
Tiens, Thierry, ce que je disais. Tu as habité pas longtemps, mais tu as habité un petit peu à Paris.
Oui.
Aujourd'hui, tu vis en milieu rural, en grande région parisienne, mais en milieu rural.
Oui.
Ça fait quoi, une trentaine d'années, c'est ça, un peu, que tu sais. Est-ce que tu comprends ce débat sur les gens de la campagne face aux néo-ruraux?
Oui, et je pense même qu'on se trompe de vocable. C'est pas des néo-ruraux parce qu'ils ont rien de rural.
C'est des citadins qui
se guident d'aller à la campagne.
C'est des citadins avec des bottes.
Et qui, en fait, sublime et fantasme la vie à la campagne. La vie à la campagne, oui, effectivement, deux ou trois jours par an, il y a l'agriculteur à côté qui répand son purin, donc ça pue. Mmh. Et quelquefois, c'est quand il fait beau et qu'on est sur sa terrasse et que ça sent parce que dans le champ d'à côté, il y a un peu de purin. Et alors, enfin, moi, je préfère ces quelques jours de désagrément ou un voisin qui a des enfants qui fait un peu de bruit, ou, etc. Je préfère ça à la nuisance que comporte la ville dans son ensemble. Moi, aujourd'hui, j'aurais du mal à revenir à vivre complètement en ville. Et donc, j'ai la chance de pouvoir vivre à la campagne, mais je bénis le ciel tous les matins en me réveillant.
Quand tu t'es installé, c'est il y a une trentaine d'années, mais ouais, tu as vécu certains désagréments auxquels tu ne t'attendais pas, j'imagine, quelques-uns.
Oui, oui. Alors en particulier parce que dans le village où j'étais, il y avait quelqu'un qui avait en fait mis une ferme avec des cochons, alors que c'est absolument illégal dans un village. Et d'ailleurs, l'hygiène est intervenue et, ouais, et parce qu'il y a eu, enfin, tout,
mais
le,
bon,
tout le village s'est plaint pour le coup parce que c'est une vraie nuisance.
Voilà. Ça n'a pas fait toute une histoire. Enfin,
mais non, il y a pas. Je pense qu'il y a aussi un truc, c'est qu'il y a une judiciarisation des rapports humains. Voilà. Et quand on est à la campagne, il suffit que la tondeuse du voisin fasse un peu de bruit et hop, on lui fait un procès ou on se plaint à la mairie. Je crois qu'il faut juste un peu apaiser les choses. La campagne, il y a des inconvénients. Effectivement, on peut être coincé derrière un tracteur pendant 10 minutes sur une petite route.
Ça veut dire quoi ça, ça veut dire, je vais renfoncer une porte ouverte parce que je connais déjà ta réponse. Mais il y a davantage d'intolérance aujourd'hui?
Ah oui, bien sûr, oui. Il y a moins de savoir vivre ensemble, en tout cas. Oui, ça c'est sûr, oui.
Juliette, toi tu es originaire de Chambéry?
Oui, Chambéry, mais plutôt ville. J'ai habité dans un tout petit village, mais rien de vraiment rural comme on l'entend, quoi.
Est-ce que tu comprends ce débat?
Ah mais je le comprends tout à fait, et je comprends la violence que ça peut être effectivement pour les ruraux de voir arriver massivement ou pas, parce qu'on essaye aussi d'inciter les gens des villes à aller vers les campagnes. On en avait parlé la dernière fois avec la taxe d'incitation, pour le coup, la prime d'incitation, ouais, ouais, vous vous rappelez. Et je peux comprendre qu'il y a une grande violence parce que ce sont des gens qui ne connaissent pas en fait les exigences de vie en ruralité, et c'est l'histoire du fameux chant du coq. Quand on ne peut pas supporter le chant du coq, et ben on reste en ville et puis c'est tout. Après
j'ai un coq qui chante.
Voilà, ça fait, mais j'ai du mal à comprendre comment on puisse à ce point-là repousser quelques odeurs, quelques bruits, quand on vit pour le coup à Paris ou en ville. Parce que pour moi, en ville, c'est décuplé. On a du bruit et des odeurs à longueur de journée. Donc c'est ça que j'ai du mal à comprendre.
Pierre-Edouard, toi, tu habites en milieu rural?
Oh ben oui, moi, je suis dans un hameau qui appartient à un village au total qui doit faire 113 habitants.
Ouais, ouais, en matière de. Et tu as toujours habité
Non, pas toujours. Non, moi, j'ai habité en ville, j'ai habité à côté d'une gare, je suis reparti à la campagne. Après, moi, j'ai toujours eu des gens dans ma famille qui habitaient la campagne. J'ai toujours été des deux côtés. Aujourd'hui, je suis plutôt effectivement rural. Non. On parlait tout à l'heure, je pense que si l'intelligence artificielle pouvait détecter les crétins avant qu'ils viennent s'installer, ce serait une bonne chose. Là, pour le coup, je suis très favorable.
Ça vibrerait tout le temps.
Je suis très favorable. Non, mais il y a un an, pareil, le clocher des églises. Enfin, quand on pense qu'on a été capable de faire des procès parce que les cloches des églises sonnent, enfin, l'Angélus qui sonne à 7h le matin, à 7h le soir, je suis pas un grand pratiquant, mais je veux dire, ça fait partie des rites. En plus, les tracteurs, l'hiver, tout le monde s'en fiche, parce qu'effectivement, oui, l'été, puis quand ils moissonnent, et le dimanche, c'est le dimanche, sauf que si on moissonne le dimanche, on moissonne le dimanche. Et vous avez des grands tracteurs qui passent dans une rue, vous pouvez pas les croiser. Mais ça, c'est le principe de la vie. Après, vous avez quand même un air plus pur. Vous redécouvrez ce que c'est, par ailleurs, en demeurant le silence, le soir, que plus personne en ville ne connaît. Le noir. Plus personne ne sait ce que c'est qu'une nuit noire en ville. Ça n'existe pas. La campagne, ça existe. Vous découvrez des pratiques, etc. Donc oui, après, le lisier de porc, ça pue. Mais oui, c'est vrai, ça pue, le lisier de porc. Mais en même temps, les pots d'échappement dans Paris, ça sent pas la rose non plus.
Ouais, c'est ce que je dis.
Tout le monde mange de la charcuterie. Enfin, en tout cas, beaucoup de gens mangent de la charcuterie.
Les GG, êtes-vous choqués?
Et vive le cochon.
Êtes-vous choqués? Rien à voir. Êtes-vous choqué que Michel Sardou soit décoré par Emmanuel Macron? Le chanteur, 77 ans, va bientôt recevoir l'Ordre National du Mérite des mains du Président de la République, une décoration qui scandalise la députée féministe et écologiste Sandrine Rousseau. Elle a posté sur son compte X, ex-Twitter, le patriarcat va tomber, il vacille déjà, mais cette distinction sent bon la France pour le consultant Anthony Hers.
Moi, je suis quand même content qu'aujourd'hui, on soutienne un vrai monument de la chanson française.
De la décorer, hein.
Il y avait Johnny, il y a Sardou. Moi, c'est les deux chanteurs dont je suis le plus fan. Les chansons de Sardou, ça sent la France, ça sent la beauté de notre pays, c'est puissant, il y a quelque chose. Donc, moi, c'est juste que je comprends plus dans la tête de Macron. Il y a 15 jours, il aimait Aya Nakamura, maintenant, il aime Sardou. À mon avis, c'est pas très clair.
Je veux pas comparer ce qui est pas comparable, mais pour certains, les chansons de Michel Sardou ne sont pas toujours très bons, hein, comme à la campagne, mais c'est la France. Pierre-Edouard.
Ben oui, enfin, alors, moi, je suis toujours très. D'abord, c'est pas très important. Enfin, je veux dire, faut ramener les choses que Michel Sardou reçoive l'ordre du mérite, c'est pas important. En plus, je crois que Mitterrand lui avait remis la Légion d'honneur. Si Macron lui remet l'ordre du mérite, c'est presque la boucle est bouclée. Quoi qu'on pense du personnage, en plus, qui en rajoute autant qu'il peut. Enfin, je veux dire, on peut trouver ça nul, mais c'est un provocateur qui en rajoute tant qu'il peut.
On a toujours joué.
Au demeurant, ça reste un immense chanteur français. C'est quand même aujourd'hui quelqu'un qui a encore, moi, je suis toujours très, je regarde toujours ça, je trouve ça intéressant. Sa troisième ou quatrième tournée d'adieu, puisque, comme Aznavour, il fait ses adieux tous les trois ans, mais il a le droit, c'est un artiste. Ouais. Il a rempli la plus grande salle d'Europe en moins de deux jours. Donc, il représente quelque chose, il porte une image. Après, on a le droit d'ailleurs de le détester. C'est aussi la liberté qu'on a vis-à-vis des artistes. On a le droit de pas les écouter, les détester. Ça reste quand même un monument de la chanson française, qu'on le veuille ou non. Est-ce que c'est vraiment, il y a de quoi faire un ramdam pareil? Je veux dire, voilà. Et au demeurant, est-ce que pour ça, les hommes vont se sentir renforcés dans leur virilité patriarcale parce qu'on met l'ordre du mérite à Michel Sardou? Je n'en suis pas sûr.
La jeune Juliette Briens, qu'est-ce que tu en penses?
Alors moi, évidemment que Sardou plutôt qu'un autre, genre le personnage de Sardou ne me pose absolument aucun problème. Grand chanteur français, merveilleux pour moi. Il n'y a aucun problème avec Sardou. Après, moi, ce que je pense, c'est que ces ordres du mérite, Légion d'honneur, etc., elles ont perdu toute leur valeur. En fait, je ne comprends pas pourquoi on donnerait la Légion d'honneur à un chanteur populaire. Ou populaire ou pas d'ailleurs, je ne le comprends pas. J'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui c'est un espèce de jeu d'entre-soi qu'on récompense comme ça, comme on donne des petits bonbons, quoi. Je comprends pas en fait la Légion d'honneur. Pour moi, l'ordre du mérite, c'est parce que t'as fait quelque chose pour la France. Il y a un terme de sacrifice ou d'une action. Enfin, quand t'as un chanteur populaire, que tu gagnes ta vie,
récompense les gens qui rayonnent à travers la France. Après, tu peux être comme Godard. Il a refusé l'ordre du mérite en disant je n'ai aucun mérite et je ne reçoit d'ordre de personne.
Ouais. Allez, on termine avec les GG. Les inégalités hommes-femmes sont-elles immuables? D'après une étude de l'ADRES, la direction des statistiques du ministère du Travail, les femmes passent 22 heures par semaine seules avec leurs enfants contre moins de 5 heures pour les hommes, ce qui les pénalise très fortement dans leur carrière professionnelle, mais pour la coach de vie Joëlle Dagosséry, cette situation est parfois voulue et assumée par les femmes.
Il est certain que nous, les femmes, on passe plus de temps avec les enfants.
Et pourquoi?
Tu sais, il y a aussi parce qu'on le veut bien. Au début des grandes gueules, je quittais l'émission et j'allais travailler juste après. Puis après, je suis partie voir mon employeur et je lui ai dit, écoute, c'est plus possible. Moi, je vais passer au 4-5e, je vais pas venir travailler après l'émission. Voilà. Et il m'a dit, mais Joël, vous n'y pensez pas, vous n'allez pas rester chez vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rester avec les gosses à la maison? Et je me suis dit, mais en fait, aucun homme ne ferait ce choix. Et la plupart du temps, c'est nous qui faisons le choix de faire les 4-5e. Mais les hommes, enfin, et moi, j'ai interrogé mon chéri, il m'a dit, mais même pas en rêve.
Pierre-Edouard.
Mais le sujet qui est posé, en fait, c'est le sujet du choix. Je veux dire que, en soi, si on arrivait dans une société où c'était vraiment un libre choix des femmes et des hommes, et s'il y a effectivement une inégalité de répartition du temps, mais que c'est un choix qui était faisable par tout le monde, oui. La problématique aujourd'hui, c'est que lié à ça, il y a notamment la question du salaire, et que l'inégalité salariale entre les hommes et les femmes fait que quand il y a des diminutions de postes à faire, voire des arrêts de travail pour des questions notamment d'éducation des enfants, bah, mécaniquement, on va choisir le poste féminin parce que c'est la plus petite perte de salaire. Donc, je dis bien de manière statistique. Et donc, le problème, c'est la question du choix. Après, là, il y a un travail à faire, mais c'est un changement de mentalité. Avant tout, c'est l'égalité salariale. Tant qu'il n'y aura pas l'égalité salariale réelle entre les hommes et les femmes.
Ça, c'est vraiment...
Non, il n'y a pas d'égalité salariale en France. Il y a 20% de moins entre les hommes et les femmes.
Mais il n'y a pas 20% à poste égal.
Non,
il y a moins de 3%. Ça a été débunké 1 million de fois. Est-ce que tous les ans, on va devoir entendre cette bêtise d'égalité?
Moi, je ne débunke rien. Par contre, je me bats pour l'égalité.
À poste égal, il y a rémunération égale. C'est dans les chiffres,
il
y a une inégalité salariale en France, il faut arrêter de mentir aux gens, c'est faux.
Sauf que l'accès à un poste égal, l'accès au temps de travail égal, et effectivement aujourd'hui, moi je l'ai vécu, ma femme était artisan commerçante, moi j'ai été salarié, quand il a fallu faire un choix, parce que notre fille est née, en plus elle avait un handicap, on a fait un choix, c'est elle qui a arrêté de travailler parce qu'elle gagnait moins, on ne s'est pas posé la question.
Parce qu'elle gagnait moins, etc. C'est pas parce qu'il y a une inégalité salariale, parce que moi j'ai toujours travaillé et j'ai toujours été payée autant que les hommes. Donc je suis désolée, c'est que sincèrement, il y a la nature et que les femmes, elles font des choix différents dans leur vie, mais à poste égal et temps de travail, il n'y a pas d'inégalité salariale.
En tout cas, on va parler, ça je sais que ça te concerne aussi, enfin ça touche aussi. Dans un instant, RMC s'engage avec vous et avec Aurélie, dont l'ex-conjoint refuse de payer des pensions alimentaires. Là aussi, en parlant d'inégalité homme-femme, c'est dans un instant dans Estelle Midi sur RMC et RMC Story.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Rémi Barré.
Estelle Midi, comme tous les jours, à midi 15h sur RMC, RMC Story, le canal 23 de la TNT. Elle vient d'arriver en studio. Elle, c'est Guillemette Roquet.
Estelle Midi.
RMC s'engage avec vous.
Salut Guillemette.
Salut Rémi.
Là, on va parler de l'histoire d'Aurélie aujourd'hui dans RMC s'engage avec vous. Aurélie, elle est maman de deux ados.
Exactement. Alors, c'est un témoignage très fort que vous allez entendre. On ne peut pas vous en dire plus sur l'identité d'Aurélie. On ne peut pas vous dire l'âge de ses enfants ni son lieu de résidence. D'ailleurs, elle ne s'appelle pas vraiment Aurélie et on a décidé de modifier sa voix. D'accord. Alors, vous allez me demander pourquoi, Rémi.
Ça a l'air lourd.
Parce qu'en fait, Aurélie est dans une situation difficile avec le père de ses enfants. Ils sont séparés depuis plusieurs années. Mmh. Leurs ados passent un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires chez leur papa. Mmh. Mais ce rythme de garde, pourtant assez classique, eh bien ce rythme de garde, il est violemment contesté par l'ancien conjoint d'Aurélie.
Cette décision a été compliquée. S'en est suivi des menaces de la part du papa verbalement en présence de mon conjoint en me disant que s'il perdait ses enfants, il me mettrait une balle dans la tête, que de toute façon, il me mettrait plus bas que terre et que j'étais incapable d'élever mes enfants et qu'ils finiraient à la DAS.
Ouais. Voilà, donc vous entendez le témoignage d'Aurélie, ce sont des menaces de la part de son ancien conjoint. Et depuis, il refuse de verser les 400 euros de pension alimentaire mensuelle. Aurélie a porté plainte pour abandon de famille, c'est comme ça qu'on appelle, c'est le nom du délit, quand il y a le non-paiement de la pension alimentaire.
Ce qui est une obligation
de
venir aux besoins de ses enfants.
Absolument, et donc, c'est dans le code pénal d'ailleurs. Et donc Aurélie a porté plainte pour abandon de famille, mais cette plainte a été classée sans suite. On l'imagine, c'est très difficile financièrement pour elle d'élever ses deux enfants.
J'ai un fils qui grandit très très vite et que il lui faut une paire de chaussures tous les mois et demi. Des adolescents, ça mange beaucoup. C'est 6 euros le repas à la cantine par jour pour un enfant. Donc c'est 12 euros de cantine par jour.
Voilà, et comme Aurélie a un nouveau compagnon, elle n'a pas le droit au même traitement que les mamans solo. Elles peuvent toucher l'allocation de soutien familial en cas d'impayé de pension alimentaire.
Mais alors, moi, j'avais vu passer ça. Normalement, il y a une réforme mise en place par le gouvernement. Désormais, en cas de défaillance d'un des deux parents, le papa, c'est la caisse.
Souvent le papa.
La caisse, oui. La caisse d'allocation familiale est chargée d'intervenir. Elle prend le relais, elle verse l'argent et puis après, elle se retourne contre le papa.
Exactement. En fait, depuis le 1er janvier 2023, la CAF, elle va gérer automatiquement le versement des pensions alimentaires. Oui. Donc en fait, en théorie, comment ça devrait se passer? L'ex-conjoint d'Aurélie devrait verser l'argent à la CAF et elle, la CAF, ensuite l'envoyer à Aurélie. Sauf que, dans les faits, son ex-conjoint refuse de coopérer. Oh là là. Voilà, donc ce qu'il fait, c'est qu'il met systématiquement son compte bancaire à zéro. Comme ça, il est sûr qu'on ne puisse pas le prélever. Okay. Et comme il est auto-entrepreneur, eh bien, c'est impossible de faire une saisie sur salaire. Résultat, le dossier se complexifie. La CAF le passe au Trésor public. Et là, la situation est bloquée. Ça fait un an et demi que ça dure. Le père des enfants d'Aurélie lui doit près de 7000 euros.
Est-ce qu'on a pu faire quelque chose pour Aurélie?
Alors notre reporter Margot Boult a échangé avec la CAF. Elle va relancer les impôts pour que les pensions dues soient saisies. Bon, ça, normalement, le dossier devrait bientôt pouvoir avancer. Et alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le cas d'Aurélie est loin d'être isolé. L'année dernière, la CAF a reçu 200 000 nouveaux dossiers de pension alimentaire. 1 sur 6 a été bloqué à cause d'un ex-conjoint.
Merci beaucoup Guillemette. Si on veut écrire à RMC Conso, c'est toujours la même adresse.
C'est toujours la même adresse mail, rmcavecvous@rmc.fr.
Et on continuera bien sûr à suivre le dossier d'Aurélie, comme à chaque fois, on ira jusqu'au bout. Allez, dans un instant, tiens, Guillemette, tu vas souvent au cinéma?
Pas assez, non, j'avoue que j'ai un peu perdu l'habitude depuis le Covid, je crois. Ouais, bon. Absolument.
Est-ce que tu es amatrice des remakes? On en voit beaucoup
pas
au cinéma.
Non, pas trop.
On vous pose la question. Justement, aujourd'hui sort SOS Phantom 5, cinquième volet. Je sais pas si tu vas aller le voir.
Vraiment pas.
Les trois mousquetaires, il y a eu le volet 1, le volet 2, il y a le volet 3, peut-être. Oui. Ah bah tu vois, le Comte de Monte Cristo.
Bien sûr.
Qui va sortir.
C'est parce que c'est des bons romans, ce sont des bons romans.
Oui, mais ça va. Oui, mais alors c'est énième adaptation qui va sortir le 28 juin. Et on vous pose la question, face à ces remakes incessants, est-ce que le cinéma serait en panne d'idées? Vous nous appelez au 3216 et dans un instant dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story.
RMC, midi 15h,
Estelle Midi.